Nous sommes le jeudi 13 février, il est un petit peu plus de 21h, vous êtes sur Radio Canut. Bienvenue dans le nerf de la game. Nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment tu vas ?
Ça va plutôt pas mal.
J'en suis fort heureux.
Oui.
J'en suis fort heureux.
Et toi ?
Ben, ça va, j'étais un peu sous la pluie, notamment ce midi.
Tu as donné de ta personne ?
Alors, j'ai donné de ma personne. J'ai soutenu la cause, on va dire. J'ai un peu soutenu la cause.
Mais quelle cause dont tu parles ?
Mais la cause. Ben, déjà, j'ai fait un peu un petit tour dans Lyon pour aller à un piquet de grève.
Ouais, t'allais te promener.
Non, oui, voilà, ouais. Je suis allé me promener pour aller à un piquet de grève, vu que c'était aujourd'hui la grève générale du jeu vidéo à l'appel du syndicat des travailleurs du jeu vidéo, donc qui a eu lieu aujourd'hui. On va en parler un petit peu juste après le sommaire, vu qu'on ne parlera pas que de ça aujourd'hui. On parlera aussi de Bohemia Interactive et des positions de sa direction.
Des investissements.
Investissements.
Des deux personnes qui sont à la tête du truc.
D'accord. Investissement et agissement.
Indirectement. Mais oui. mais pas forcément lié à l'entreprise en elle-même.
D'accord.
C'est ça qui est intéressant.
Très bien.
Qu'est-ce que tu es allé faire cet après-midi du coup ?
Alors en fait, déjà le pourquoi je suis sorti,
oui.
Parce que bon, il y avait une grève et je me suis pas sorti au hasard. Donc comme je disais, le STJV en fait avait appelé tous les travailleurs et les travailleuses et les étudiantes. Et les étudiants à la grève générale du jeu vidéo le 13 février. Donc il y a eu des rassemblements à Paris, à Montpellier, à Annecy, à Angoulême, à Bordeaux, à Lille, à Rennes et aussi donc à Lyon. Ce qui a été choisi plutôt que de faire un piquet de grève à un endroit de Lyon, c'est plutôt de faire un cortège itinérant en passant par les entreprises du jeu vidéo à Lyon.
Okay.
Ça a commencé donc à 9h devant les bureaux de Pastèque Games du côté de Charpennes. On est ensuite allé du côté de Ivory Tower, Ubisoft, toujours à Villeurbanne. On est redescendu devant les studios de Kiloton, là où je suis, c'est là où je me suis rendu moi ce midi. Par la suite, ça a été un passage par les studios Microïd et par les studios Old Skull.
Okay.
Par les studios Old Skull, pour ceux qui remettent pas, ce sont les gens qui ont fait la deuxième partie de Soldats Oubliés, entre autres. Le tout s'est terminé devant le studio Virtuos. Je ne connaissais pas le studio Virtuos. En fait, c'est un studio qui fait principalement du portage et de l'outsourcing, vu que Virtuos, il y en a aussi à Singapour. Il y a une grosse histoire à parler aussi sur Singapour. J'ai déjà parlé de la scène indonésienne en particulier, mais il y a aussi un gros scandale qui s'est passé à Singapour. Je ne sais pas si tu avais vu ça, Romain. Je crois que c'est les une des dernières enquêtes de les gens sur YouTube qui font des grosses enquêtes jeux vidéo
de People Make Games
de People Make Games,
oui,
en fait.
Avec j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais effectivement c'était, ils ont fait très récemment un retour finalement sur la, enfin c'était une suite de,
ils avaient déjà fait
de
quelque chose il y a deux ans
d'une enquête, ouais.
Et il y avait la continuation. Et alors Virtuos c'est pas directement dedans, mais était déjà cité dans la scène indonésienne, singapourienne, en tant que studio d'outsourcing où il y avait des choses qui se passaient de assez étranges, on va dire.
Mm-hmm.
Donc en fait, moi je me suis pointé devant le studio Kiloton, pour un peu discuter avec les membres du cortège. J'ai notamment discuté avec des membres, avec des salariés de Arkane, de Pastek Games et aussi de Kiloton, sachant qu'il y avait aussi, il n'y avait pas que des membres du syndicat STJV, il y avait aussi des membres de Solidaire Informatique.
D'accord.
Et il y avait aussi des syndicats des métiers artistiques et culturels qui étaient là. Alors pour le coup, j'ai vu sur le site du STJV qu'il y avait un ralliement du syndicat des linguistes et en gros des traducteurs de manière générale.
Tout mais à fait.
Alors ça doit être, j'imagine, plus principalement sur Paris qu'ils ont dû être là, parce que sur Lyon je n'ai pas vu de représentants.
D'accord.
Mais c'était pour dire qu'en gros c'était pas juste le STJV qui faisait la grève dans son coin, il y avait aussi d'autres sections qui venaient. J'ai vu, il y avait notamment une personne de la CGT aussi qui était là avec surtout une mobilisation plus grande que celle que je pensais. Très honnêtement, je pensais voir juste des gens du STJV et globalement une 10-15 de personnes. Quand je suis arrivé, le cortège était quand même de entre 50 et 60 personnes.
D'accord.
Ce qui était plus correct. Sachez que par exemple dans une entreprise comme Pastek Games, c'est 70 personnes à tout casser. Mmh. En tout, ça veut dire que t'as l'équivalent d'une boîte quasi entière qui était dehors à être dans le cortège. Donc c'était quand même assez intéressant.
Ok. Et tu disais, tu as récupéré du, enfin, t'as oui. communiqué avec eux, donc en gros.
J'ai parlé avec eux pour avoir en fait un peu leur ressenti sur le pourquoi de cette grève là, de comment ils voyaient la situation dans leur propre boîte.
D'accord. Et plus généralement à Lyon,
en fait, et de voir notamment les différences qu'il peut y avoir entre en prenant Pastek Games et Kiloton, qui sont pourtant deux filiales de Nacon,
okay.
et qui ne sont pas exactement logés à la même enseigne, mais pourtant il y avait des gens de Pastek Games qui étaient là parce qu'ils savent ce qui se passe chez Kiloton et chez Spiders aussi.
Oui, mais c'est ce que je me souviens des dernières grèves chez Spiders, en tout cas d'un dernier mouvement, en tout cas chez Spiders, ça avait été suivi par Kiloton parce que ils savent que ce qui se passe dans un des studios gérés par Nacon, ça leur arrivera aussi.
Oui. Et donc, ce que je te propose, c'est de passer un son pour contextualiser. C'est la prise de parole donc de Amy Olesko, qui est en fait membre du STJV chez Kiloton et qui a pris la parole justement devant Kiloton pour le piquet de grève. Juste désolé pour le son, il a plu, donc si vous entendez des plic-plic-plic, c'est normal. C'est
l'aléa du direct.
C'est la pluie qui tombe sur les parapluies.
Ok, c'est parti.
On a accompli un travail de fond contre les risques psychosociaux qui font pourrir l'entreprise de l'intérieur, qui causent des burn-out, des démissions et se matérialisent sous la forme de violences quasi quotidiennes pour certains. On a organisé déjà plusieurs grèves et on a atteint des taux de grévistes d'un tiers des effectifs pour défendre nos droits et contraindre la direction à s'asseoir à notre table. Enfin, même s'ils donnent tout pour nous diviser et nous monter les uns contre les autres, on mène une lutte collective contre Nacon, notre maison mère. Ils se cachent derrière la structure de groupe pour niquer toute négociation, nous priver de fonds et imposer des décisions. À vous, patron de Nacon, on arrive pour attraper votre veste. Malheureusement, les victoires sont pas la norme et on voit le coup sur la santé des collègues et des camarades. On les remercie pour leur implication et le taf qu'ils ont fait qui nous permettent d'enfin voir des avancées. Cela étant dit, on lâchera pas le moindre bout de terrain qu'on a réussi à arracher et notre soutien aux autres sections STJV sera indéfectible. On envoie de la force à toutes les sections qui se montent. Vous pouvez changer la donne et on est avec vous. La section Kiloton s'apprête à porter ses luttes et à soutenir les camarades. Nous sommes nombreux, nombreuses et déterminés. Il est pas né celui qui aura notre peau. Ça s'est mal passé pour le dernier qui a essayé. Merci beaucoup.
Ok.
Ouais.
Bonne ambiance.
Oui, effectivement, c'est. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que derrière justement les vraies détresses qu'il peut y avoir en termes de conditions de travail, il y a quand même aussi le sentiment d'une cause qui est de plus en plus ralliée avec une prise de conscience dans le domaine du jeu vidéo qui est de plus en plus grande et qui est donc assez intéressante et, comme tu as pu l'entendre, assez galvanisante aussi du côté des travailleurs. Juste pour rappeler les revendications, j'en avais parlé il y a deux semaines, mais je préfère les rappeler aussi aujourd'hui. Et en fait, les revendications, c'est le maintien des emplois, l'annulation des licenciements et la responsabilisation des décisionnaires, en fait, qui devraient se sacrifier en priorité quand leur entreprise est en difficulté, au lieu de tout faire peser, de faire peser en fait les mauvaises décisions uniquement sur les salariés. Ce qui est réclamé aussi, c'est la transparence des entreprises sur leurs finances et leur santé économique pour que les travailleurs et travailleuses puissent se projeter dans leur futur. La prise en compte de la santé au travail et de la vie personnelle par la réorganisation du travail, la réduction du temps de travail et la gestion aussi du télétravail.
Ok, oui, qui était une des vraies revendications du côté d'Ubisoft.
Bon, chez Ubisoft, enfin, c'était plutôt
l'inverse, c'est-à-dire que c'était une situation qui avait été mise en place, on va dire, avec la direction, et qui est revenue dessus de façon unilatérale, très violente, récemment.
C'est ça. Et enfin, la participation directe des travailleurs aux prises de décision dans leur entreprise pour éviter les erreurs dans leur direction et contrôler le bon usage des financements. Et c'est pour le coup, on vit complètement Dontnod.
Oui, voilà, c'est Dontnod hein, qui.
C'est complètement, on est sur ce qui s'est passé chez Dontnod. Dontnod, d'ailleurs, où comment dire, la plupart des employés vont vous supplier d'acheter Lost Records. Parce que, on va être clair, c'est le dernier.
C'est leur dernière cartouche.
C'est la dernière cartouche. Si Lost Records ne marche pas. Même ne marche pas assez, Dontnod, c'est terminé. Vu la situation de l'entreprise, voilà. Je sais qu'il y a une caisse de grève, en fait, qui était là. D'ailleurs, c'était plutôt bien organisé. Pendant le piquet de grève, il y avait des sandwichs et des poissons qui étaient distribués, qui avaient pu être payés justement grâce.
À la
caisse d'avant en question. Je ne suis pas membre du STJV. Ils m'ont quand même offert. J'ai pas touché parce que j'ai pas participé au truc. Je me sentais pas bien d'aller taper dedans, tu vois. Mais c'est important, pas que pour le côté il faut manger pendant le piquet de grève, mais aussi pour rattraper les salaires. Parce que
c'est ça que ça sert effectivement, une caisse de grève à la base.
Voilà. Mais ça peut aussi servir pour les actions syndicales,
ça sert au
mouvement,
etc. Oui, bien sûr.
Ouais, voilà.
Mais ok.
Et donc en fait, la caisse de grève, on peut y participer en donnant directement pour la caisse de grève ou en achetant un bundle auquel tu t'es intéressé.
Oui, un bundle qui est lancé depuis hier sur itch.io, qui est vraiment donc spécifiquement au bénéfice de la caisse de grève du STJV. Donc dedans, on trouve un peu tout. Il y a du jeu, du webzine, du texte, et il y a plusieurs paliers. On a un palier à 10€, un palier à 5€ et un palier à 1€.
C'est ça, 1€.
Je crois que c'est ça. Et dans le palier à 10€, il y a quand même 2-3 trucs intéressants. Tetrobot & Co. Run the World in Between, le jeu d'encre mécanique. Il y a Buisson également, qui était quand même un jeu très sympathique. Il y a Pyrène, qui est pas si vieux, un petit jeu de cartes avec de quelques mécaniques intéressantes, qui est vraiment pas vieux. Cold Ridge également, qui, si je dis pas de bêtises, deux anciens d'Amplitude qui sont allés monter leur petit projet. Ça, c'est dans le palier à 10€. Dans le palier à 5€, on a des jeux qu'on avait déjà retrouvés dans différents bundles caritatifs sur itch.io. Notamment Vignette, notamment Blocks That Matter.
Oui.
Minami Lane aussi.
Minami Lane, c'est un nouveau pour le coup.
Il est très récent. Il est récent.
Il a moins de 6 mois en tout cas. Hein. Il a moins de 6 mois et en plus, c'est un succès surprise hein, celui-là.
Oui, c'est un petit jeu Wolfram qui est moins programmé pour réussir que d'autres.
Oui, c'est ça. Quand je dis succès surprise, il sort pas de nulle part. Mais il n'était pas programmé pour qu'on en parle jusqu'aux États-Unis en tout cas.
Oui.
Il s'est retrouvé sur beaucoup de chaînes, sur beaucoup de recommandations.
Comme la bonne surprise de l'année.
Surtout,
les petits jeux indés sympathiques
disons
de l'année.
Il a bénéficié de sa taille et de son prix.
Tout à fait. On retrouve aussi dedans des jeux, notamment de la Game Jam des Rendez-vous de l'Histoire 2024 avec Droite 1968 par exemple. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi dedans qu'on avait vu? On a un jeu de Doc Giro, Un Pas Fragile. Voilà, donc il y a
un deuxième jeu donc, parce qu'il y avait déjà Buisson.
Oui, pardon. effectivement, mais pas dans le même palier. Donc voilà, il y a quand même deux trois trucs intéressants. En plus du fait que ce soit que la cause soit à soutenir et à défendre. Actuellement, au moment où je vous parle, le bundle avait mis comme objectif 25 000 dollars de revenus. On en est actuellement à 18 329, ce qui est quand même pas dégueulasse pour un bundle qui a été lancé hier.
Ouais, c'est que je pense qu'il y a un vrai soutien. Sachant
qu'il y a 1166, oui, c'est ça, contributeurs pour l'instant.
Ouais, ça veut dire que t'as un panier moyen qui est moins grand que l'année dernière, vu que le panier moyen était à 11 l'année dernière.
Oui. Après, on verra avant, ça fait encore que 24 heures, donc on va voir.
Oui, oui.
Le bundle est encore ouvert pendant 15 jours.
Oui, mais en tout cas, c'est. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur une initiative vraiment très locale. Française, hein. Sachant que les bundles en général qui sont sur le TIO ont vocation plutôt internationale. Pour atteindre des sommes pareilles, je pense pas qu'on soit resté qu'en France. On va pas se leurrer, hein. On prend aussi les gens qui sont entre guillemets juste opportunistes en disant il y a plein de jeux à pas cher, on y va, quoi.
C'est ça. Mais c'est comme tu le disais, un des moyens de soutenir la cause actuelle. Et je pense que le STJV et les différentes sections, en tout cas qui ont participé, comme tu le disais tout à l'heure, les linguistes qui ont rejoint le mouvement. Je pense que tous ces différents participants à ce mouvement d'aujourd'hui en reparleront très vite. On a déjà eu des. Il y a Silence on joue qui aura une émission dessus demain, qui est déjà enregistrée. Ils en ont mis un petit extrait disponible aujourd'hui.
D'accord.
Et je pense que ce ne seront pas les seuls à faire. Comme tu l'as fait, à être présent sur les différents mouvements, différents lieux physiques où les gens se rassemblaient pour cette grève. Donc on en entendra à nouveau parler dans les jours à venir.
Ouais. Voilà, en tout cas, c'était bien d'avoir une vision aussi, entre guillemets, lyonnaise et locale.
Oui, bien sûr.
Ouais. Ça, le temps de rappeler que le jeu vidéo à Lyon, c'est pas juste Ubisoft et Arkane.
Mmh. Tout à fait, c'est les fers de lance, mais oui, c'est les plus visibles.
Les plus visibles.
En général, on peut parler de Microïds aussi, qui sont quand même pas ridicules en termes de
oui,
quantité.
Oui, mais quand on parle de Lyon, on parle moins de Microïds, alors que...
Parce que c'est peut-être en termes de jeux réellement sortis, c'est peut-être un peu moins, ils sont peut-être moins mis en avant, comme tu disais, peut-être de façon internationale, même si là, avec les fourmis, genre de truc, ça va peut-être changer un peu, mais...
C'est ça. Mais voilà, parce que on parlait de Pastel Games, oui. De All Skulls, de
Ravenswatch est un très très bon jeu de Pastel Games.
Oui,
de je dis comme ça au cas où.
Oui, ben je leur ai dit, ils m'ont cru.
Ah bah ils étaient d'accord avec toi, j'imagine.
Atmosphère, je crois un studio qui s'appelle Atmosphère, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un sacré paquet de studios à Lyon.
Oui, bien sûr, Lyon et Villeurbanne. Il y a Dromier Pixel à Villeurbanne également. Ouais, voilà. Enfin, il y a quelques studios qui font des choses très intéressantes.
C'est ça, on a tendance à oublier en fait le nombre de structures qui peut y avoir à Lyon. Qui avait découlé en gros de l'installation de Infogrames
il y a longtemps maintenant.
Puis Atari, puis Bandai Namco.
Oui, non, mais ils ont été quelques-uns. Mais effectivement, on va dire qu'on avait un peu l'impression que ça penchait sur un axe Paris-Montpellier pendant longtemps. Mmh. Bordeaux est également sur la carte, hein, clairement, avec Asobo, enfin, ils ne sont pas les seuls. Il y en a un petit peu à Bordeaux, il y a aussi un Ubisoft à Bordeaux.
Il y a toujours un Ubisoft à Bordeaux.
Tout à fait.
Bah, celui qui a fait Mirage.
Voilà, par exemple.
Celui qui est en train de faire un joli DLC.
Oui. Oui. Pour au bénéfice de quelqu'un en particulier.
Ils font un DLC qui a déjà été payé.
Oui,
c'est
oui,
bon.
Non mais écoute.
J'espère qu'ils vont le diffuser gratuitement.
Dans certains pays du Golfe peut-être. Voilà. C'est bien d'avoir rappelé tout ça et d'avoir été présent en tout cas, de parler un petit peu de ce mouvement actuel. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler.
Non, mais de toute façon, c'est quelque chose dont on parle régulièrement. Et là, c'était l'occasion, d'en parler avec, surtout, d'en parler avec des gens que ça concerne.
Oui, directement. Oui.
Que ça concerne directement. Et puis de relayer leurs paroles, tout simplement, aussi ici sur Radio Canu, dans le nerf de la game. On dit toujours, le nerf de la game, c'est jeux vidéo indépendants, lutte sociale et gros sous.
Voilà. Du coup, on est pas mal.
On est pas mal.
On est pas mal.
On est pas mal. Parlons de Bohemia Interactive.
Oui, parce que du coup, il s'est passé. On a eu une information cette semaine qui m'a donné envie effectivement de m'intéresser un peu à la société dans son ensemble. Mm-hmm. et spécifiquement à l'info qu'on a eue cette semaine. Bohemia Interactive, donc c'est un studio de développement, éditeur aussi à César, qui est basé à Prague, en République tchèque, et qui est donc né en 1999 exactement, et qui a été commence à être connaître avec un vrai gros succès. Leur premier jeu a été quand même un beau succès pour l'époque. C'était Opération Flashpoint.
Voilà, si vous n'avez pas de PC, si vous n'aviez pas de PC à l'époque, il est normal que vous ne connaissiez pas ce nom.
Et si vous étiez pas dans les simulations de jeux de tir militaire assez poussés, hein,
voilà.
Ouais, c'est ça, ouais, c'était quand même assez, enfin, voilà. On se voulait réaliste dans les situations, dans la difficulté aussi, enfin, il y a plein de choses qui étaient quand même.
Oui, voilà, c'était, on va dire en 2001, en termes de...
Ah, on n'était pas sur Quake ou sur Unreal Tournament?
Non.
Pas l'idée.
On était sur des trucs, mettez tous les guillemets que vous voulez, réaliste, c'est-à-dire par exemple, il y avait un moteur qui te calculait la balistique des tirs, quoi.
Et déjà à l'époque c'était déjà assez fou,
insensé.
Aujourd'hui c'est moins extraordinaire,
mais à l'époque c'était.
Mais c'est parce que eux l'ont normalisé en fait, clairement. Si on retrouve ça dans les shooters modernes, c'est aussi parce que ça a fonctionné et c'est quelque chose qu'ils ont, en tout cas ce réalisme-là, ils l'ont poussé, comme tu dis, assez loin, et surtout par rapport à la période.
Pour moi on était vraiment dans la lignée plutôt du côté les fameux simulateurs d'avions militaires qui essayaient d'aller vers une vraisemblance la plus crédible possible par rapport au modèle, par rapport à tout ça.
Tous ces jeux dans les années 90 qui nous faisaient revivre la guerre du Golfe.
Et je pense que pour le coup Opération Flashpoint était très dans cette philosophie là en tout cas de comment représenter la guerre. Il y a plein de trucs très intéressants sur comment on représente la guerre. En tout cas, eux, leur représentation, c'était d'essayer d'avoir un truc. Leur version du réalisme, c'était les chiffres, on va dire.
Oui, puis même au niveau visuel, c'était pas non plus pour l'époque. Hein, on remet tout dans le contexte, mais c'est quand même ça. Et depuis toujours, c'est quand même une priorité aussi pour eux. Parce que c'est quand même donc un studio qui a ensuite évolué avec deux énormes licences, on va dire, principalement Arma.
Oui.
Arma qui a surtout explosé avec Arma 2 et puis Arma 3 depuis quelques années. Mais ils ont aussi dans leur bagage DayZ, qui à la base est un mod pour Arma 2.
Tu peux pas passer comme ça connu pour Arma 2 sans dire que un des jeux qui a lancé la folie du Battle Royale vient de Arma 2, quoi.
Alors, oui, effectivement, parce que on parle de d'Arma 2, donc qui était encore une fois une simulation de tir militaire, etc. Mmh. Et c'est un jeu qui a été propice au mode.
Oui.
On l'a vu avec DayZ.
Oui, notamment qui est donc
un mode survie dans une apocalypse zombie qui avait déjà plus ou moins inventé pas le concept du Battle Royale mais le concept de la mort permanente entre guillemets, enfin le fait de tout perdre quand on décède.
Juste pour être clair, Arma 2 c'est Opération Flashpoint avec un nouveau nom parce qu'ils ont plus les noms c'est le même principe, c'est de la simu militaire.
C'est-à-dire qu'en fait on nous place dans un théâtre d'opération fictif dans l'idée, je crois que ça a toujours été un peu la logique des Arma.
Première personne, bien sûr.
Et en fonctionnement des squads, etc., communication avec ses partenaires, ses coéquipiers, etc.
Avec les canaux radio, les trucs comme
c'est assez,
des fois quand t'es trop loin tu peux pas entendre tes camarades, enfin c'était poussé assez loin.
Et donc assez ouvert à la modification, au mode en général. Donc on parlait de DayZ, mais on parle aussi donc d'un gars qui se fait aujourd'hui appelé PlayerUnknown, qui a créé le concept du Battle Royale, enfin pas créé le concept, mais en tout cas développé son premier mode Battle Royale sur Arma 2, un concept qu'il va faire évoluer en un jeu qui s'appelle aujourd'hui PUBG, qui est juste un des jeux qui rapporte le plus de pognon sans doute dans l'histoire du jeu vidéo, hein, il doit pas être bien loin des 20-30 premiers, je sais pas exactement où il se situe, mais il brasse un pognon monstrueux.
Disons que je sais pas en valeur absolue, je sais pas, mais en tout cas en termes de bénéfices par rapport à ce qui est en pognon engagé, clairement. C'est-à-dire que par exemple quand on parle des autres Battle Royale, il a fallu plus d'argent même pour Epic, qui a lâché plus d'argent pour le faire le sien, parce que Paladin, voilà.
Oui, bah, ils sont rattrapés quand même depuis avec Fortnite.
Oui, oui, non, mais je veux dire en termes de combien de fric t'as engagé.
C'est sûr.
Avant d'avoir le succès, quoi. Parce et que PUBG, justement, un succès... ça n'est pas un jeu qui a coûté bien cher. Hein.
Non, 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 mais surtout un succès qui dure encore plus maintenant qu'il est passé free-to-play.
Et puis,
il était payant avant, il est devenu free-to-play.
Qui rapporte beaucoup d'argent. Maintenant.
Oui, oui, non, mais techniquement, ça permet à Krafton aujourd'hui d'être un éditeur qui a les moyens de soutenir des projets.
C'est ça.
Et le prochain Subnautica, enfin, il y a un certain nombre de projets comme ça qui sont financés, en tout cas soutenus par l'éditeur Krafton.
Oui, voilà, donc ferme la parenthèse, mais effectivement, tu pouvais pas passer Arma 2 sans parler de PUBG quand même.
Ah non, évidemment, évidemment, mais c'était pas le projet. Mais toujours est-il que tu parlais tout à l'heure du réalisme,
oui.
Vers lequel le temps, avec vraiment, enfin, c'est une volonté. C'était une volonté très très importante pour le studio. Et ce réalisme, en fait, j'allais pas dire qu'il leur est revenu un petit peu dans les doigts par moment, mais on a eu plusieurs situations où le jeu, en tout cas des images du jeu, ont servi à, on va dire, à passer des messages politiques, à servir un petit peu de propagande, à être présent dans des documentaires. La première fois que c'est arrivé... Hop, que je reprenne exactement le bon truc. Donc on avait trouvé, c'était à l'époque d'Arma 2. C'était à l'époque d'Arma 2 où des images d'Arma 2, de la télévision britannique ITV, donc a utilisé du footage, donc des enregistrements en in-game d'Arma 2 dans un documentaire sur l'IRA, prétendant montrer une attaque de Hormigs qui se serait produite en 1988. Voilà, ça a été un des premiers. C'était en 2011, et c'était donc une des premières fois finalement qu'un jeu était suffisamment réaliste pour permettre de passer, en tout cas voilà, d'être utilisé dans ce contexte-là. Et effectivement, c'était quand même un petit peu incroyable, quoi. Enfin, de se dire, ok, on va faire croire aux gens que ce qu'ils sont en train de regarder, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et c'est un petit peu le sujet. Ça a commencé à poser la question de des images de jeux vidéo qui peuvent être présentées comme des preuves historiques authentiques. En tout cas, c'était comme ça que c'était présenté dans ce documentaire en 2011. On a ensuite, beaucoup plus près de nous, sur Arma 3, la même situation qui s'est produite sur la guerre d'Israël, en fait, contre le Hamas, contre la population de Gaza, précisément.
Laquelle? Parce que des guerres.
Il faut que je reprenne exactement. Je ne sais plus exactement quand ça s'est passé, mais il y a quelques années, en 2023, c'était.
Pardon. Techniquement, il n'y a pas de guerre, il y a des événements.
Oui, voilà. Et puis ça dure depuis un moment, mais bon, il y a eu des événements plus précis. Toujours est-il que voilà, c'est également donc en 2023 qu'ont été constatés, qu'ont été utilisés donc des images d'Arma 3 pour symboliser finalement, pour montrer des événements qui se seraient passés à l'époque. Le studio avait réagi en disant justement arrêtez de déconner, arrêtez d'utiliser des images de notre jeu pour montrer parce qu'ils ont eu, ça a été arrivé aussi pour des événements militaires en Syrie, en Ukraine. DCS aussi est un autre jeu militaire qui s'est retrouvé dans la même situation, en fait, où des images en jeu ont été utilisées par la propagande. Je crois à l'époque c'était la propagande russe qui faisait croire qu'ils avaient détruit des avions ukrainiens en montrant des enregistrements tirés du jeu. Mais donc voilà, enfin, on parlait un petit peu de réalisme, en tout cas le projet de réalisme du studio a pu provoquer ce genre de situation parce que le jeu est suffisamment réaliste pour ça. Donc voilà, mais Bohemia avait réagi en disant arrêtez vos conneries, quoi. Et leur réaction, elle avait été assez, je trouvais à l'époque, assez assez claire et plutôt bien tournée finalement sur ça. Le studio, à travers donc un partenariat aussi avec la Croix-Rouge à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'était en...
Si c'est pour la guerre Ukraine, ça devait être 2022.
Je suis pas sûr. C'était le c'était avec donc le CICR, donc la Croix-Rouge internationale. Ils avaient utilisé le DLC Laws of War qui a servi donc en partenariat avec ça à sensibiliser les joueurs aux règles de la guerre et aux conséquences humanitaires des conflits armés, notamment à travers la représentation d'armes controversées, et comme les munitions à fragmentation, dans des lieux où sont encore présents des civils. Et donc voilà, ils avaient quand même déjà aussi participé, si tu veux, à montrer la réalité de la guerre, que ce soit du point de vue du soldat.
Pardon, effectivement, c'était en 2019.
Oui, voilà. Mais du coup, voilà, là, ils avaient quand même, donc, comme on disait, donc la réalité de la guerre du côté soldat, mais également du côté, là, dans le cas présent, donc de ce DLC Laws of War pour Arma 3, du côté du point de vue d'un travailleur humanitaire, chargé de déminer les champs de bataille, de venir en aide aux civils, etc. Donc voilà, un petit peu ce que fait Bohemia, de façon générale, ils sont partis sur ça, et sur des simulations militaires extrêmement la plus réaliste possible, avec tout ce que ça implique autour, et jusqu'ici, bon, bah, ils avaient quand même, on va dire, pas une réputation particulièrement qui allait dans une direction, si tu veux, de prise de position, qui allait dans une direction de glorification de la guerre, justement, c'est ce partenariat avec les Ovoirs. Et avait aussi comme but de montrer la réalité de la guerre et son atrocité dans tous les domaines.
Et qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, d'après ce que tu dis, j'imagine que l'image...
On parle de ça.
Désormais, enfin, l'image a changé. Quelle est la nouvelle qui a provoqué ça ?
Alors, elle n'est pas complètement nouvelle, d'ailleurs. Mais c'est un article d'il y a deux jours, si je ne dis pas de bêtises, un article de Game Developer, qui a rappelé, plutôt qui a fait une enquête relativement longue, sur le fait que les fondateurs du studio, donc le PDG Marek Spanel, je dois très très mal le prononcer, parce que je ne sais pas lire les différents caractères du tchèque, et donc le PDG de Bohemia, et Slavomir Pavlicek, le directeur financier, ils ont acquis en 2023, donc c'est pas hier, enfin c'est hier, mais... C'est pas maintenant, quoi. C'est pas une news d'aujourd'hui. Ils ont acquis donc un média qui s'appelle Parlamentni Listi. Voilà. Donc, pareil, encore une fois, je dois toutes mes excuses à ceux qui savent lire le tchèque. C'est un média tchèque qui est donc souvent accusé, je trouve la formulation un peu gratuite. En fait, tout simplement, c'est un média qui diffuse de la désinformation et des points de vue pro-russes sur l'actualité, en règle générale. Donc notamment sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur tout ce qu'a pu faire l'administration Biden.
Ah, mais c'est I24.
Oui, ou RT, enfin Russia Today, enfin si tu veux.
Non mais RT et Russia Today à Ibit, c'est dans le titre.
Oui, tout à fait, c'était dans le titre, mais c'est
I24 News, c'était pas dans le titre.
Non, c'était pas prévu, c'était pas officiel, mais on les a vus quand même. Ouais. Mais voilà, donc ils font ça en République tchèque depuis visiblement un petit moment. Okay. C'est un média qui a cette ligne éditoriale depuis un petit moment, et eux spécifiquement, ces deux personnes donc qui font partie, donc Marek Spanel qui est clairement le fondateur de Bohemia, j'ai pas exactement la date d'arrivée, j'ai envie de dire, de Slavomir Pavlicek dans le projet, mais toujours est-il que ce sont donc eux qui ont acheté ce média. L'acquisition du média, donc, c'était quelque chose de public, parce que ils ont plus ou moins les mêmes on va dire diffusion de l'information, en tout cas d'achat de sociétés en République tchèque ici. Sauf que l'information, en fait, elle n'a pas circulé en dehors de la République tchèque avant. Enfin, j'ai pas trouvé de trace de ça avant cet article d'il y a deux jours de Game Developer. Et en fait, c'est une acquisition, ouais, qui pose des questions sur l'influence de l'argent du jeu vidéo qui serait utilisé à d'autres fins, d'une certaine façon. Même si, comme je disais, on peut difficilement faire un lien entre Bohemia Interactive, ses actions, ses déclarations, et finalement, on va dire, une propagande pro-russe récente. Donc, participation, j'ai envie de dire, à toute la campagne médiatique de désinformation, de saturation de l'Internet avec des fausses informations et clairement des fake news et une vision très, 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 très polarisée du côté des médias. Comme on l'a vu avec relativement récemment, c'est en Roumanie, hein, qu'ils ont remis en cause les résultats des élections suite à une opération médiatique via TikTok des élections.
Ça, j'ai pas suivi.
Enfin voilà, on va dire les tentatives de manipulation qui viennent de Russie, des médias, de l'espace médiatique de façon générale, via les réseaux sociaux, via le doppelganging, donc la copie quasi conforme de médias legit, de vrais médias comme Le Monde, comme Le Point, ce que tu veux, avec des très légères différences dans l'URL du site et des articles dedans qui sont complètement orientés, complètement biaisés. Cette opération-là médiatique russe, on la connaît, on la voit donc depuis l'année dernière, je crois que c'est à peu près au moment où elle a été identifiée sous ce nom-là. Je conseille d'ailleurs à ce sujet la vidéo de Spline LND sur les doppelgangers, donc l'opération médiatique russe à ce niveau-là. Voilà, donc jusqu'ici, si tu veux, l'entreprise Bohemia Interactive pouvait difficilement être reliée à ça, surtout qu'elle avait participé relativement récemment à une levée de fonds à destination de la Croix-Rouge pour soutien aux victimes de la guerre en Ukraine. Donc on pouvait difficilement, si tu veux, faire un lien direct entre l'entreprise et ça. Maintenant, il est très très clair que le média lui-même, il diffuse, de la désinformation très très claire sur ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, pardon, l'utilisation de termes qui sont clairement des termes insultants, si tu veux, pour désigner les Ukrainiens, pour nier leur légitimité à habiter chez eux. Enfin, tu vois, vraiment le discours russe sur le sujet qui justifie leur intervention. On a aussi Spanel, donc au moment l'acquisition du média, avait affirmé que cette acquisition donc vise à contrer la distorsion du débat public observée lors de la crise migratoire de 2015 et de la pandémie du Covid, où on voulait visiblement, d'après cette personne, nous faire croire qu'on n'allait pas se faire envahir par des migrants et que le Covid c'était dangereux, il fallait vraiment cette rhétorique là sur clairement d'extrême droite de sujets.
C'est une rhétorique qui fait gagner des élections, ça, hein?
Absolument. C'est une rhétorique qui fait gagner des élections, ou en tout cas qui fait monter. Mais parce qu'elle est notamment soutenue de façon très très forte par notamment c'est des campagnes médiatiques qui sont on a identifié certaines sources que ça vient de la Russie.
Oui, ça vient aussi si tu connais un dénommé Steve Bannon, il n'est pas étranger à ce genre de choses aussi.
Ah, complètement, complètement. Mais oui, ce média donc spécifiquement donne une plateforme à des politiciens extrémistes. Spanel donc prétend, comme d'autres avant lui, genre un certain Elon Musk, défendre la liberté d'expression. Donc évidemment la liberté de raconter ce qu'eux ils ont envie, enfin c'est évidemment, et la nécessité d'entendre des voix alternatives. Alors en soi, on va jamais être contre une pluralité dans les médias et de la liberté, si tu veux, de tenir un discours qui est pas forcément celui qui est officiel sur des trucs. Maintenant quand on peut se poser des questions quand on voit les sujets qui sont mis en avant. On a des exemples de contenus publiés par Parliamentary Listy, qui inclut des propos donc désobligeants envers les Ukrainiens, enfin au niveau des termes, des articles de théorie du complot liés à George Soros, par exemple. On a des propos transphobes absolument dans tous les sens.
Je suis désolé, c'est une banalité affligeante tout ce que tu nous racontes.
Ah, complètement, oui, mais c'est un peu c'est la répétition de ces thèmes qui fait que c'est d'une banalité affligeante. Et comme je disais, donc on a des propos transphobes, on a des articles sur la criminalité migratoire, des positions anti-vax dans tous les sens, quoi. Spanel, donc, quand on lui fait les remarques, il défend l'indépendance éditoriale et rejette les tentatives de faire taire et ou d'étiqueter les médias en fonction de leur point de vue.
Mais c'est François.
Oui, sauf que François, ils ont plus le droit de se déclarer comme un média maintenant. Mais...
Oui, mais c'est François.
Ah, mais oui, complètement.
La ligne éditoriale, c'est François, quoi.
Oui, absolument. Mais on est là-dessus, hein. On est clairement là-dessus. Et je crois qu'ils avaient fait un lien complètement débile avec ils avaient dit que Biden faisait de la fête de Pâques une fête, on va dire, de la fierté trans. parce que sur la transidentité, parce que ils avaient en fait c'est le je crois que le jour en question, le jour où ils célébraient, si tu veux, l'identité, enfin les transidentités, etc. C'était le 30 mars et ça tombait spécifiquement cette année-là en même temps que les fêtes de Pâques. Et que du coup, ils s'étaient servis de cette proximité des dates pour dire Biden a transformé les fêtes de Pâques
c'est comme la guerre contre Noël, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est la même logique. La guerre contre les chrétiens de façon générale, si tu veux.
Les gens qui disent bonne fête, en fait, ils sont anti-chrétiens.
Exactement.
Parce qu'ils devraient dire joyeux Noël et pas bonne fête.
C'est ça. Même à des gens qui sont pas chrétiens, tu vois. Et donc, on est dans cette rhétorique du remplacement des valeurs traditionnelles par des valeurs qui les dérange clairement et qui sont clairement identifiés on va dire sur le spectre politique à l'extrême droite. Et donc voilà. Donc ce qui est pas inintéressant dans le cadre du jeu vidéo, c'est que les achats, finalement les ventes de Bohemia Interactive ont rempli évidemment, parce que c'est quand même des jeux qui ont eu un succès assez incroyable, ont rempli évidemment les poches de des dirigeants. Spécifiquement, je suis allé jeter un œil quand même sur des rapports sur Glassdoor, sur l'entreprise en elle-même en République tchèque, qui les résultats sont un peu mitigés. Bon, c'est toujours un peu compliqué de tirer des conclusions
Je suis quelqu'un qui sera toujours très attentif par rapport aux conditions de travail, autant tu sais très bien que sur Glassdoor, c'est les gens qui se plaignent qui parlent.
Absolument. Absolument. Mais il y avait deux trois trucs qui avaient été plus ou moins ressortis, même dans la presse tchèque à l'époque, sur le fait que la considération envers les employés était pas ouf.
Voilà.
Après, mais derrière, il n'empêche que c'est relativement logique que les dirigeants, si tu veux, qui ont fondé l'entreprise, se soient enrichis vu le résultat quand même assez extraordinaire dans le domaine du jeu vidéo. De ces trucs-là.
L'enrichissement via Bohemia Interactive de ses dirigeants paraît plutôt logique au vu. Ils n'ont pas fait des jeux qui n'ont pas marché et récupéré de l'argent par de la levée de fonds pour ensuite virer des gens, etc. C'est plutôt la croissance de Bohemia Interactive est relativement linéaire depuis sa création.
Complètement. Elle est linéaire et régulière. Elle est vraiment en très bonne santé financière.
Pour le coup, c'est beaucoup moins chaotique et c'est beaucoup moins chaotique que ce qu'a pu connaître CD Projekt depuis 7 ans, on va dire.
Complètement.
C'est-à-dire que
c'est des grosses revenus rentrées d'un coup. Voilà. Et puis ensuite, c'est un panier percé pendant des années. Et puis d'un coup, c'est une grosse rentrée. Et puis
voilà, c'est ça. Et en plus, avec à chaque fois une valse dans les
travailleurs.
Dans les travailleurs et chez les dirigeants aussi, d'ailleurs.
Complètement. Ah, il s'était vanté récemment qu'il reste 100 employés qui ont bossé sur le premier Witcher, qui sont encore dans la société pour bosser sur le 4.
Oui,
ça avait été presque surprenant, parce que justement de ce qu'on savait et du mouvement qu'il y a eu.
Alors attention, quand ils disent 100 qui sont encore là, est-ce que c'est des gens qui sont partis et revenus? Parce que,
Parce que c'est vrai que l'entreprise a un peu changé, mais bon, c'est un autre sujet, c'est une boîte polonaise.
Parce que CD Projekt a créé le jeu polonais. le paysage du jeu polonais, c'est des anciens de CD Projekt.
En gros, et d'ailleurs, oui, à une époque, c'était difficile de pas trouver un nouveau projet de jeu indé. De gens qui se disaient nous on a bossé sur The Witcher, c'était assez impressionnant la quantité effectivement qui arrivait avec toujours alors nous dans notre entreprise on respecte les employés etc. on les intéresse sur la participation et on les fait pas bosser pendant 60 heures par semaine. Leur pitch.
Mais après c'était Witcher 3 c'était facile d'embaucher les gens là-dessus, hein, mais bon.
Même après les premiers, mais vraiment. Mais oui, ça malgré tout, ça pose un peu la question quand on est consommateur, en fait, de ce que va devenir l'argent qu'on dépense, en fait. Et Spanel, on sait qu'il a notamment, il a des liens directs avec, Pavlicek et Spanel ont des liens, que ce soit direct personnel ou que ce soit de financement de politiciens et de partis politiques d'extrême droite en République tchèque. Donc voilà, malgré tout, ça pose un peu, ça pose un petit peu question, quoi.
Alors, la question que je vais te poser, c'est le prochain jeu. Alors, je sais que tu joues pas trop à tout ce qui est Arma, mais tu joues à tu joues pas à DayZ non plus.
Non, voilà.
Mais un prochain jeu très intéressant qui te chauffe et qui est édité par Bohemia, parce que il y en a, vu que c'est pas que des.
Pas tant, ils ont pas une activité monstrueuse d'édition, mais oui. Enfin,
genre par principe. Dans le principe, t'iras même pas le voir.
Franchement, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui s'est, je dirais, qui s'est rarement posée. Enfin, de mon point de vue, elle s'est posée pour les jeux Ubi, en vrai. Parce que
par rapport à quel sujet?
Par rapport aux conditions. Enfin, tu vois, tu peux te poser la question de te dire, ok, tu donnes de l'argent à une boîte alors que tu sais dans quelles conditions de travail, conditions de toxicité ont pu être faits, donc ça fonctionnait dans certains studios. Tu peux te dire, est-ce que je valide finalement ça en achetant les jeux?
C'est quoi les jeux Ubi auxquels tu joues, toi?
À moi, aucun. Peut-être. Aucun. Ouais, mais c'est pas la question. La question, c'est pourquoi. Enfin, est-ce que c'est un sujet dans ton choix d'achat de jeux?
Oui, parce que toi, on est d'accord, ça fait quoi, 15 ans que t'as pas touché à un jeu Ubi?
J'ai joué à Far Cry 3 il y a pas si longtemps.
Ce qui était gratuit.
Non, pas du tout. Non, j'ai jamais eu. Non, je prends pas les jeux gratuits sur Epic Game Store parce que je me respecte encore. Mais
il était gratuit sur l'Ubi Store.
Mais en plus, mon Dieu, approchez ce truc-là avec un bâton. Non, dans l'idée, si tu veux, c'est vraiment cette question-là. Cette question qui peut se poser et qui a une certaine légitimité. On en parlait il y a pas si longtemps à la sortie de Kingdom Come Deliverance 2. Parce que il y a un certain Daniel Vavra qui est quand même à la tête du studio Warhorse qui donc a sorti le premier et le deuxième, et il y avait des vraies discussions autour du passé de cette personne, au-delà du fait qu'il ait fait les Mafia 1 et 2 et Kingdom Come Deliverance 1. À l'époque, il a été plus ou moins au milieu d'une discussion, on va dire, sur la réalité historique, sur un certain nombre de sujets qu'il a eu une façon un peu particulière de traiter.
Ouais, alors sachant
en brossant dans le sens du poil une certaine catégorie de gens.
En fait, c'était pour moi la discussion, elle n'était pas tant sur le respect de la réalité historique, mais sur la justification et la réponse qu'il a eue lorsqu'on lui a pointé les erreurs. Parce que voilà, il y a une différence entre parce que pour moi, c'est ça, le côté respect de la. Ça me rappelle, tu sais, le débat qu'il y avait eu quand Assassin's Creed Unity était sorti, et que à l'époque, tu avais eu des critiques de députés français qui disaient que, en gros, c'était, enfin, la représentation était pas bien.
C'était pas historique. C'était pas historique. Elle était contre, entre guillemets, un certain nombre
en fait,
de personnes.
Et en fait, ce qui était intéressant, c'était pas de dire que pour une fois, un député français n'arrivait pas dans un jeu vidéo en disant le jeu est violent, c'est pas bien, mais que la représentation historique étant inexacte, elle pouvait donner de mauvaises idées de la représentation. Et peu importe ce qu'on en pense, l'angle était plus intéressant que jeu vidéo égale pas bien. Tu vois ce que je veux dire?
J'entends complètement.
Et c'est pour ça que là. Et après, bon, après.
C'est marrant parce que c'est exactement le même argument pour Shadows et la présence d'un certain personnage dedans.
Voilà. Et Ubi a répondu de façon très classique. Vous avez vu la petite phrase qu'on met au milieu, au début là, c'est ça représente rien ni personne. On fait ce qu'on veut et démerdez-vous.
Et puis, malgré, c'était déjà la même réponse qu'on pouvait donner à l'époque. On l'a donnée pour Shadows, hein, en leur disant les gars, c'est quand même une série de jeux. À une époque, on se foutait sur la gueule avec le pape qui avait des pouvoirs magiques. Il y a un moment, faut arrêter de vouloir foutre de la réalité historique dans les Assassin's Creed.
Alors déjà, le pape Borgia ne mettait pas tu savais pas si le pape Borgia, il envoyait pas des éclairs façon
avec les doigts, façon
empereur Palpatine, d'accord? Alors, tu le sais pas.
Le pape Borgia, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier. Peut-être. Je dis pas. Bref, mais voilà. Mais malgré tout, donc comme tu disais, ce qui est intéressant, c'était sa réaction. À l'époque, il a dragué très très clairement une certaine partie des joueurs, une certaine frange des joueurs qui était plutôt du côté Gamergate, et qui aujourd'hui, ça revient lui mordre le cul en fait, parce que dans le jeu, légèrement, tout doucement.
En tout cas, ça revient lui mordre les fesses, mais pas assez pour que son portefeuille soit pas rempli. Hein.
Non, mais c'était déjà le cas pour le premier. Le premier, c'est très bien rendu malgré tout.
Ah non, le premier, il n'y a pas eu de retour de flamme, vu que le Gamergate était derrière lui. Il n'y a pas eu de retour de flamme.
Elle n'a pas eu de façon significative, et là non plus, il n'y en a pas de façon significative. Ils sont quasiment à 2 millions de ventes en même pas une semaine.
Bah, c'est pour ça. C'est, enfin,
donc voilà, c'est des discussions. En vrai, c'est des discussions. C'est, mais je comprends qu'on puisse se poser la question. Je comprends qu'en tant que consommateur, on puisse se poser la question de est-ce que je veux pas forcément valider, parce que le contenu du jeu, de tous ceux qui l'ont joué, alors il y a des phases où. Comme dans tous les jeux de Vavra, visiblement, il y a des phrases et des phases de gros beauf. Bon, ça c'est une approche. Hein, on est en France, hein, on va pas parler de. Le cinéma français est une usine à situation de gros beauf.
Écoute, mais, récemment chez un de nos amis, l'ami Lupus, oui. J'ai pu observer la finesse des dialogues dans des jeux vidéo comme Mafia et Mafia 2.
Mais tu n'as pas vu dans Kingdom Come Deliverance aussi, deux.
Et j'ai vu ensuite.
Il y avait des trucs.
J'ai pas vu pour le premier, j'ai vu pour le deuxième, voilà. Et j'ai fait. Oui, bah c'est écrit. Enfin,
c'est
pardon.
Toujours écrit par Vavra, mais.
J'ai envie de dire. Je vais pas dire c'est écrit avec le cul, parce que c'est pas le côté. Je connais pas l'histoire. C'est-à-dire, je vais pas dire l'histoire est mal écrite. Les dialogues sont écrits par Beaufland.
Oui. Voilà. Alors, petit détail, je trouvais quand même dans le 2.
Mais dans Mafia 2, c'était horrible.
Oui, mais horrible. Justement, il y a cette petite. À dire subtilité, non, mais différence, je trouve, avec dans Kingdom Come Deliverance 2. Le personnage que tu joues est presque celui qui vient toujours dire vraiment, vous êtes trop con, arrêtez de dire ça, et genre le truc. Enfin, il a un petit peu ce statut, si tu veux, de. Il regarde les autres en disant, mais non, mais je suis pas comme ça. Enfin, bon. Je dis pas que ça suffit, si
mais
tu
oui,
veux à excuser,
le...
je dis pas que c'est.
Oui,
que
non, mais en gros, ouais,
au contexte.
C'est ce que j'appelle le syndrome Astérix. C'est-à-dire, c'est quoi le pouvoir d'être Astérix? C'est le seul qui est malin par rapport à tous les abrutis qui sont autour.
Oui, c'est Kaamelott.
C'est ça.
Mais du coup, bon, ça montre, enfin, et du coup, quand tu fais ça et quand tu le fais bien, ça peut être une façon de dénoncer certains comportements en te montrant le personnage qui est là, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces cons, quoi. C'est une façon de pas les mettre en valeur et de pas les glorifier, finalement, ses comportements et ses discours. Mais bon, voilà. Enfin, mais malgré tout, voilà, je reviens sur Bohemia. Maintenant qu'on sait ce que finance l'achat des jeux, au-delà de faire fonctionner l'entreprise, de payer les employés, de tout ça, je comprends que ça puisse être une question, en vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Comment tu vois? Comment est-ce que finalement c'est la question de de voter avec son portefeuille.
Écoute, le truc c'est forcément moi je me la pose pas forcément avec Bohemia parce que je
de toute façon t'aurais pas acheté les jeux. Mais c'est une question qui peut se poser de façon globale en fait.
Mais moi je me pose la question typiquement à un jour il y a Moon Studio qui dit on va faire un nouveau Ori.
Mm-hmm.
Ça va être dur. Ça va être très dur.
Parce que ça fait si longtemps que tu dois nous parler de Thomas Mahler. Oui. Le CEO de Moon Studio, ouais. qui a des petites takes assez rigolotes.
Et le truc, c'est que plus je lis les takes, et moins j'ai envie de parler de lui, quoi. Parce que
Si on parle de Vavra, on peut parler de Thomas
Mahler. Non, je suis désolé, hein. Vavra, c'est un enfant par rapport à Thomas Mahler.
Mais c'est rigolo, parce que Thomas Mahler, en fait, les rares fois où on avait entendu parler de lui, déjà, c'était pour constater qu'il était bloqué il y a 10 ans, sur le fonctionnement de l'industrie. Parce le mec, il nous a quand même dit en 2024, dis donc, l'early access, c'est cool, ça permet de, tu vois, d'être financé pendant qu'on continue à développer son jeu. Ça existe depuis plus de 10 ans, mec. Enfin, d'où tu viens?
Et non seulement il dit ça, mais il dit surtout tous les jeux devraient être comme ça.
Oui, c'est incroyable, incroyable. Le mec il est complètement décalé avec la réalité. Au-delà d'avoir des techs complètement pétées.
Sachant que la première fois que j'ai entendu parler de Thomas Mahler, c'était même pas pour le fait que ce soit un masculiniste de premier ordre, un gars globalement d'extrême droite et un suprémaciste blanc, mais c'était pour le fait que c'était un horrible, horrible patron.
Oui, c'est vrai que c'était avant 2020.
Sur le premier Ori déjà.
Ouais, voilà.
Sur le premier Ori. Le premier Ori sorti en 2016.
Il y avait des retours déjà des employés.
Voilà. Et en fait, on n'en a pas entendu pour le premier Ori, mais pour la production du deuxième. Qui avait pris pas mal de retard, on savait pas pourquoi. Au final, le jeu est très bien, hein, mais c'est après le deuxième que c'est Take qui faisait que dans son coin et en allemand. Le truc, c'est que moi, je lisais pas ces trucs-là, même si je sais lire l'allemand. Et la première fois que j'ai lu en allemand, je fais wow, ok.
C'est
AFD, c'est AFD. C'est en gros le mec c'est Andrew Tate allemand.
D'accord.
Pour
oui, ça résume bien.
Voilà. La seule différence, c'est que lui, il s'est pas fait emprisonner en Roumanie, quoi.
Mais du coup, je comprends. Voilà, tu comprends la question de.
Et donc, j'adore les Ori. Le premier Ori, c'est un film, c'est un jeu magnifique. Le deuxième, j'ai beaucoup aimé, même avec les différences de gameplay. Ils m'en font un troisième.
Est-ce que tu veux financer ça? Est-ce que tu veux participer?
Est-ce que je veux donner de l'argent à ce type-là? Jamais de la
vie. Valider certaines choses, je sais pas trop. Tu vois, là, en plus de ça, dans le cas de Bohemia, c'est pas juste un mec dans son coin qui a des techs. C'est des gens qui vont financer et qui possèdent directement un média qui diffuse ces techs-là.
C'est pour ça que je suis très content que No Rest for the Weekend ne m'intéresse pas.
Oui, comme ça, la question ne te pose pas.
Mais je sais que, il y a pas longtemps, j'ai entendu parler de, il se murmure que pourquoi pas un prochain Ori,
il y a quelqu'un de chez Microsoft, parce que visiblement, c'est Microsoft qui a les droits, qui en a parlé avec Thomas Mahler récemment.
C'est ça. Et Thomas Mahler a dit pas non à de l'argent, parce qu'il est pas
con. En fait, il a pas dit non au concept, mais il a dit, de toute façon, pour l'instant, je suis sur, No Rest for the Wicked, et j'en ai pour au moins 5 ans. Donc, sera pas, quoi qu'il arrive, si ça se fait, ce sera peut-être pas pour tout de suite.
On verra. Mais effectivement, mais là je me pose la question. Moon Studio, ça va être vraiment l'exemple où je me dis voilà. Quoi.
Bah disons que voilà, c'est la question. En fait, c'est la question qui devrait pas forcément être liée à ton intérêt pour le jeu, d'une certaine façon. C'est pour ça que je disais voter avec le portefeuille. Qu'est-ce que ça a comme impact? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'on peut appeler ça du boycott? Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions-là finalement qui sont un petit peu qui sont pas du tout résolus, qui sont pas du tout. Si tu parles avec des gens qui te parlent d'Ubisoft à l'époque où on entendait parler la toxicité tolérée et même récompensée au sein d'Ubisoft, des gens qui te disaient ouais mais si les jeux se plantent etc, c'est les développeurs qui sont pour rien et qui vont subir. C'est toutes ces questions là finalement qui sont pas résolues en vrai. Enfin y a pas de bonne ou mauvaise réponse, j'ai l'impression. Enfin à mon sens personnel, j'ai pas envie de participer à ça. Est-ce que c'est vraiment la réponse? Est-ce que c'est vraiment la solution?
En tout cas, enfin, je sais que c'est moi qui ai posé la question, qui avait posé la question à la base, mais ce que je trouve, c'est que le principal et la meilleure chose qui puisse arriver, c'est d'avoir un achat renseigné. C'est-à-dire que au moins tu sais où tu mets les pieds. Après, tu prends ta décision, mais au moins tu sais ce que ça implique.
Et c'est une info qu'on a maintenant sur Bohemia Interactive. Donc c'était important, je pense, qu'elle existe, qu'elle soit sortie. C'est bien, je suis très content que Game Developer ait pu sortir cette info qui était plus ou moins restée en République tchèque, jusqu'ici, très locale. Donc tant mieux, parce que les jeux ne sont pas, eux, locaux. Ils sont une diffusion mondiale. Hein. Donc, comme tu dis, c'est au moins l'information et le... Elle est disponible maintenant et voilà, on peut faire son choix en fonction de toutes les infos sur le sujet.
Eh ben merci à toi pour t'être renseigné sur Bohemia Interactive.
Ben merci à toi d'avoir bravé la pluie pour nous parler aller à la rencontre de la grève.
T'imagines, je suis sorti de chez moi.
Ben déjà oui, ça c'est déjà incroyable.
Au lieu de jouer quoi.
Incroyable.
Ah là là. On se retrouve la semaine prochaine, mais pas sur Radio Canut.
Et non.
On se retrouve directement au bar chez les Tartes.
Tout à fait.
Où donc il y aura notre version mensuelle du quiz blind test chez les Tartes.
Qui s'appelle
Prestart.
Prestart.
Où on vous posera des questions, on passera de la musique et vous pourrez gagner des lots et boire des coups. Et ce sera très bien. On vous attend nombreux pour jeudi prochain.
20h. Voilà, bah merci beaucoup pour nous avoir écoutés pendant cette petite heure.
Et on se retrouve bientôt.
C'est ça, bah dans 2 semaines à mon avis. Hein.
Mais venez au bar.
Oui, revenez déjà.
Allez, bye.
On va commencer par ça. À tout bientôt.
Ciao.
Salut.